Voilà, bonjour à chacun. Ce matin, dans notre série sur les grandes questions opposées à la foi chrétienne, nous allons aborder la question de la fiabilité des Écritures. La Bible est-elle fiable? Peut-on se fier à la Bible? Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, une révélation de Dieu, la parole que Dieu nous adresse. Nous croyons qu'elle est entièrement vraie et digne de confiance, car elle est inspirée de Dieu. Comme le dit notre confession de foi, nous croyons que la Bible est la parole que Dieu nous adresse. En elle réside la seule et infaillible règle de foi et de vie, ainsi que les critères fondamentaux pour éprouver toute doctrine, toute tradition, tout système religieux ou ecclésiastique et toute action chrétienne. La révélation qu'elle nous apporte ne saurait être modifiée ni complétée par aucune autre. Nous croyons que le Saint-Esprit a souverainement présidé à l'origine et à la formation des 66 livres du recueil biblique. Nous croyons qu'il en a lui-même assuré l'enseignement parfait et l'entière vérité par l'intermédiaire des auteurs qui, dans leur humanité et par sa divine inspiration, ont contribué à nous communiquer la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible révèle tout ce que nous avons à connaître pour parvenir au salut, pour vivre selon Dieu et trouver notre joie en lui. Voilà ce que nous croyons au sujet de la Bible, par laquelle nous connaissons, nous pouvons connaître la volonté de Dieu, l'histoire du salut, la vie du Christ, ou encore les promesses de Dieu et l'espérance à venir. Pour nous, si nous avons la foi, ces choses ne font aucun doute. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Pour certains, pour beaucoup même, la Bible n'est pas fiable. Elle serait, par exemple, pleine de contradictions. Contradictions entre la Bible et la science, par exemple, en prenant le texte du début de la Genèse. Contradictions dans l'enseignement des textes, avec, par exemple, la promotion, dit-on, de la violence dans l'Ancien Testament et le pacifisme de Jésus dans le Nouveau Testament. Ainsi disent certains, la Bible ne serait qu'un ramassis de textes hétéroclites et contradictoires sans valeur historique sûre. Ce serait un livre qui ne ferait que reprendre les mythes des grandes civilisations babyloniennes et égyptiennes. Ce serait un livre plein de violence, poussant au racisme et à la misogynie, présentant un Dieu cruel et vengeur. Ce serait un livre de morale culpabilisant, empêchant l'épanouissement de la personne et la liberté des peuples. Bref, un livre indigne de confiance. Qui n'a jamais entendu ces choses, ou des choses similaires? Quand les médias, par exemple, parlent de la Bible, et je pense ici, entre autres, à des émissions que j'ai pu regarder sur Arte, c'est souvent à charge qu'ils en parlent de la Bible, à charge, pour en dénoncer les erreurs, les incohérences, et ranger la Bible ou certaines parties de la Bible au rayon des mythes et des légendes. Et tout ça fait que beaucoup de nos contemporains ont fini par croire ces affirmations négatives au sujet de la Bible sans plus prendre le temps ou sans prendre le temps de les vérifier par eux-mêmes, tout en les répétant comme des certitudes. Que penser de tout cela? Que penser de ce qui peut sembler contradictoire dans la Bible? Que penser de l'invraisemblance des récits miraculeux. Est-ce que ce sont des inventions? La Bible est-elle vraiment fiable? Est-elle digne de confiance? En plus de notre foi, avons-nous de solides raisons de penser que ce que la Bible dit est vrai? Il est évident que le caractère inspiré des Écritures n'est pas accessible à un examen empirique direct. En revanche, il est pertinent de demander dans quelle mesure les Écritures portent la marque d'un document fiable sur le plan historique. Par exemple, pour ce qui est de la transmission de la Bible, possédons-nous suffisamment de données pour accéder à la version originale des textes bibliques? Par exemple, pour ce qui est de l'archéologie, les découvertes archéologiques qui sont faites confirment-elles ou infirment-elles le texte biblique? Voilà quelques-unes des pistes qu'il faut explorer quand nous réfléchissons à cette question de la fiabilité de la Bible. Avant de commencer à répondre à notre question, la Bible est-elle fiable? Il faut que nous comprenions bien de quoi nous parlons. Et c'est notre deuxième point intitulé « La Bible ». C'est quoi la Bible? Non pas du point de vue de la foi, non pas du point de vue de son contenu, mais du point de vue de sa composition, du point de vue de sa rédaction et du point de vue de sa transmission. Alors commençons par sa composition. La Bible, en fait, est plus qu'un seul livre. C'est en réalité toute une bibliothèque. Nous l'avons déjà vu dans la Confession de foi. C'est une collection de 66 livres. D'ailleurs, le mot « Bible » vient du grec « ta biblia », qui est la forme plurielle du nom « la Bible ». Donc, c'est du mot « le livre », et signifie « les livres ». Les livres, et ça a donné donc la Bible. Et nous dénombrons dans nos versions françaises, en tout cas celles que nous utilisons, 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Alors, je n'entre pas ici dans les différences qui peuvent exister, par exemple avec les Écritures juives, qui sont la base de notre Ancien Testament, où il y a des livres qui sont regroupés, et donc on arrive à un total différent, ou alors certaines Bibles catholiques, par exemple, où certains livres sont ajoutés dans l'Ancien Testament, et donc on arrive aussi un total de livres différents. Notons que tous ces 66 livres sont composés de genres littéraires différents, allant des récits historiques aux textes poétiques, en passant par des généalogies, des lois, des cantiques, des prières, des prophéties, des proverbes, des paraboles, des lettres, des écrits apocalyptiques, et j'en passe. Ainsi, la Bible n'est pas seulement une bibliothèque parce qu'elle rassemble 66 livres, mais aussi parce qu'elle fait cohabiter des genres et des styles littéraires très disparates. Comme vous le savez, la Bible est composée de deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament qui raconte l'histoire des relations de Dieu avec le peuple d'Israël jusqu'à la venue de Jésus. Et puis, donc, cet Ancien Testament, à l'origine, a été écrit en deux langues, en hébreu majoritairement, et quelques passages, ou quelques livres, comme le livre de Daniel, en araméen. Et puis, le Nouveau Testament nous raconte essentiellement, commence en tout cas par la vie, la mort et la résurrection de Jésus, puis l'expansion de l'Église, du christianisme, qui est structuré par les écrits des apôtres. Et le Nouveau Testament est écrit à l'origine en grec. Voilà pour la composition de la Bible. Continuons sur la question de la rédaction. Et pour les 66 livres de la Bible, on dénombre environ 40 auteurs différents. Environ parce qu'il y a quelques, quelques livres où on n'est pas très sûr, on ne connaît pas avec certitude, par exemple, l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Certains pensent que c'est l'apôtre Paul, d'autres pensent que c'est Barnabas. Donc voilà, ça va changer au final le total des auteurs, mais on est autour de la quarantaine. Et dans ces 40 auteurs, on trouve de tout. On trouve des rois, on trouve des prophètes, on trouve des bergers, on trouve des pêcheurs, on trouve un médecin, etc. Et la plupart d'entre eux ne se sont jamais rencontrés. Ces hommes, excusez-moi mesdames, mais c'était que des hommes à l'époque, ces hommes ont écrit sur une période de 1500 ans. 1500 ans, grosso modo de l'an 1400 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 100 après Jésus-Christ. On attribue les premiers livres de la Bible à Moïse autour de cette période, et puis le dernier livre, l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean. Le papier n'a été inventé qu'au 1er siècle de notre ère, en Chine, et donc c'est sur des parchemins qui étaient faits avec des peaux de bêtes ou sur des papyrus faits avec les fibres végétales de la plante du même nom que les auteurs de la Bible ont majoritairement écrit les textes. Notons que ces auteurs, pour la plupart, ont annoncé parler de la part de Dieu. Et ainsi, dans la Bible, et majoritairement dans l'Ancien Testament, on dénombre plus de 2000 fois où les textes sont introduits avec les paroles suivantes « Ainsi parle le Seigneur » ou « Ainsi parle l'Éternel ». Et la question qui se pose est donc la suivante. Est-ce que ces hommes ont été chargés de cette mission par Dieu lui-même? Ou bien étaient-ils seulement bien intentionnés tout en vivant dans l'illusion d'une mission divine? Après tout, peut-être étaient-ils des imposteurs, peut-être étaient-ils des menteurs, plutôt que des prophètes, par exemple. En fait, il est très difficilement tenable, à mon sens, d'imaginer et d'affirmer que tous ces hommes, sur une durée aussi longue, 1500 ans, aient délibérément menti ou se soient fait des illusions. Et il faut se rappeler ici, comme l'écrit un auteur, Tom Short, dans un petit livre « Dieu, point d'interrogation », ceci, ils, les auteurs bibliques, vivaient dans une culture où honorer Dieu était considéré comme la plus grande des obligations, se présenter en tant que prophète sans l'être vraiment représentait un crime passible de la peine de mort. Nous passons à la transmission de la Bible, du texte biblique. La période de rédaction étant très longue, 1500 ans environ, il a non seulement fallu écrire la Bible, mais ensuite, il a fallu la copier pour la transmettre aux générations futures. Il a fallu la copier encore et encore. D'autant plus que les supports sur lesquels on écrivait étaient très fragiles, le papyrus, le parchemin, et se dégradaient rapidement. Notons que cette fragilité des supports utilisés est la raison pour laquelle il n'existe aujourd'hui aucun texte d'origine, aucun autographe, c'est-à-dire aucun écrit rédigé de la main même de l'auteur du livre. Les documents que nous avons, qui ont été retrouvés, qui ont été conservés, ne sont que des copies de copies de copies. Des copies parfois très fragmentaires, qui ont résisté à l'œuvre destructrice du temps, bien évidemment par la volonté de Dieu, mais aussi et surtout, alors c'est bien évidemment conduit par Dieu, mais parce que nous sommes dans un contexte climatique très favorable en Moyen-Orient, dans le Moyen-Orient, qui permet la conservation, un climat donc très sec, et qui a rendu possible que certains de ces papyrus ou de ces parchemins très fragiles nous soient néanmoins parvenus dans un état très acceptable. En parallèle à l'écriture et à la transmission des textes bibliques, il y a eu ensuite le rassemblement au fil des siècles de ces écrits, un rassemblement qui s'est fait tout naturellement et au fur et à mesure. Et c'est ainsi que des collections de textes sont apparues. Des collections qui ont fini par former ce qu'on appelle le canon biblique. Le canon, c'est un mot technique qui en grec veut dire « bâton à mesurer » et que l'on utilise pour désigner les livres qui constituent la règle, les livres qui sont reconnus comme faisant autorité en matière de foi parce qu'ils sont reconnus comme étant inspirés de Dieu. Ainsi, on estime que le canon de l'Ancien Testament a été grosso modo fixé dans la forme que nous connaissons à l'époque de Jésus et que celui du Nouveau Testament a été fixé dans la forme que nous connaissons à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ. Qui a décidé quels livres étaient canoniques et lesquels n'étaient pas? Qui a décidé du canon biblique? En fait, alors c'est une longue histoire, hein, je résume forcément, je prends parfois des raccourcis, mais les livres sont devenus canoniques pour la plupart au fur et à mesure. Ils se sont imposés au fur et à mesure. C'était une évidence pour la grande majorité d'entre eux. Il y a eu des débats sur certains livres qui ont fait que le canon tel qu'on le connaît a été fixé, par exemple, pour le Nouveau Testament assez tardivement, parce que sur l'épître de Jacques, par exemple, sur l'épître de Jude, il y avait des discussions qui ont pris du temps. Et puis d'autres livres qui ont été rejetés, qui ne font pas partie du canon. Je termine ce deuxième point en soulignant qu'aujourd'hui encore, la Bible est copiée et transmise. C'est quelque chose qui continue. Aujourd'hui, la Bible est encore et toujours le livre le plus traduit, le livre le plus vendu, le plus diffusé au monde. Selon l'Association biblique britannique pour le monde anglophone, le nombre de Bibles vendues dans toute l'histoire avec un grand H se situe entre 5 000 et 7 000 millions d'exemplaires, c'est-à-dire entre 5 et 7 milliards d'exemplaires. Et ça, c'est sans compter aujourd'hui tout ce qui se fait sur le support numérique et qui est très difficile à comptabiliser. Beaucoup de gens aujourd'hui n'achètent plus la Bible, téléchargent l'application sur leur téléphone par exemple. Tout ce que nous venons de dire sur la Bible, sur sa composition, sur sa rédaction, sur sa transmission, font que la Bible est un livre unique. Un livre unique est de loin, mais son caractère unique et son immense succès ne garantissent cependant pas sa fiabilité, ni même sa véracité. Après tout, écrit Stefan Gokroger dans son livre « C'est l'évidence même », des millions de journaux se vendent chaque jour, leur tirage important garantit-il qu'ils disent la vérité? C'est fort douteux. Le grand nombre de Bibles imprimées ne garantit donc pas la véracité du message biblique. Et c'est ainsi que nous revenons à notre question du départ. La Bible est-elle fiable? Que peut-on en dire? Et ça nous amène à notre troisième point, une très grande fiabilité, où je vais proposer plusieurs raisons d'affirmer que la Bible est, que le texte que nous avons est extrêmement fiable. Et je vous propose quatre clés d'entrée, et la première, c'est les manuscrits. Beaucoup d'objections concernant la fiabilité de la Bible tournent autour de la question des manuscrits. Des manuscrits, des parchemins, de leur copie et de leur transmission. Alors oui, je lis la Bible pour les nuls, en tout cas je l'ai consultée pour préparer ce message, et Éric Denimal qui a écrit la Bible pour les nuls dit ceci: « Depuis Moïse jusqu'à Gutenberg, les écrits sacrés, comme les autres, ont été copiés, recopiés et recopiés des centaines de fois. Nous serions en droit de soupçonner un nombre impressionnant d'erreurs. » Il a raison. Nous serions en droit de soupçonner un nombre impressionnant d'erreurs. Et c'est ainsi que certains vont souligner que reproduire manuellement un texte ne se fait pas sans l'introduction de ce qu'on appelle des altérations dans le texte. Puis la copie avec ses altérations va elle-même être copiée et on va rajouter d'autres altérations et ainsi de suite. Et donc on arrive à cette phrase, nous serions en droit de soupçonner un nombre impressionnant d'erreurs. De plus, toutes les copies, de toutes ces copies qui ont été faites, il ne reste que quelques exemplaires. Si on compte l'ensemble des copies, ce que nous avons est quand même une portion réduite, quelques exemplaires rarement complets, donc fragmentaires ou partiels, et donc souvent même fragmentaires. Et tout le travail des chercheurs qui travaillent à cela est de constituer ce qu'on appelle l'arbre généalogique de ces copies pour essayer de remonter au plus près au texte d'origine. Et pour ce faire, les chercheurs vont utiliser bien évidemment tous les manuscrits qu'ils ont à leur disposition, les manuscrits bibliques, mais aussi d'autres textes, des traductions anciennes de la Bible en syriaque ou en copte, par exemple. Il en existe beaucoup qui sont très anciennes. Des citations de textes bibliques que l'on trouve dans d'autres documents, dans d'autres textes anciens. Cette tâche pour la Bible, comme pour les autres textes de l'Antiquité, c'est ce qu'on appelle la critique textuelle. La critique textuelle. Et voilà une définition de ce qu'est la critique textuelle. La critique textuelle est la science qui, à partir des manuscrits disponibles aujourd'hui, cherche à reconstituer au plus près le texte original d'un auteur, à remonter le plus possible dans la chaîne de transmission des textes pour retrouver les mots employés au départ. Revenons à notre question. La Bible est-elle fiable? Et nous posons la question, que dit la critique textuelle? Elle montre premièrement que dans des manuscrits très anciens que nous avons à disposition, les scribes faisaient toutes sortes d'annotations dans les marges au sujet, par exemple, de la formulation qu'ils considéraient, quand il y avait des variantes, de la formulation qu'il considérait la meilleure, ou des endroits où il soupçonnait qu'il y avait une altération, une erreur qui s'était glissée dans la copie du parchemin ou du manuscrit. Et toutes ces annotations dans les marges de ces manuscrits anciens témoignent du souci qui était le souci de ces scribes et des croyants de l'époque de transmettre le plus fidèlement possible le texte qu'il copiait. Et on sait par certains écrits que l'habitude des scribes qui copiaient l'Ancien Testament, en particulier, mais même après, était de compter le nombre de lettres sur la copie du départ, de compter le nombre de lettres sur la copie qu'il venait de réaliser, et si ça ne matchait pas parfaitement, la copie était détruite et on recommençait. La critique textuelle nous montre deuxièmement que la plupart des erreurs que l'on trouve dans les manuscrits et les parchemins bibliques sont des erreurs de copie qui sont de la même nature que les erreurs de copie que l'on peut faire nous quand on recopie un texte manuellement. On a calculé qu'un bon copiste, c'est quelqu'un qui faisait en moyenne une à deux fautes par page et que, à l'évidence, les fautes qu'on a repérées n'étaient pas intentionnelles. Alors j'ai tiré quelques exemples pour que ce soit un peu plus facile à visionner du type d'erreur qu'on peut rencontrer. Et le premier type d'erreur, enfin le premier que je cite, c'est que dans certains manuscrits grecs anciens, tout était écrit en majuscules et il n'y avait pas d'espace entre les mots. Donc, c'était qu'une page remplie de lettres collées les unes aux autres. Alors, je vous donne un exemple à l'écran. Voilà, par exemple, ce que ça donne. Et donc, je vous ai mis un petit exemple qui ne vient pas du texte grec, mais vous avez des lettres qui se suivent en haut et qui, au final, peuvent donner ces deux lectures. « Ils ne le sont pas » ou « Ils ne les ont pas ». Le texte permet les deux lectures. Et donc, on comprend assez facilement le type d'erreur que cela peut donner dans la compréhension du texte et dans la transmission du texte. Le genre d'erreur que cela peut donner. Un deuxième type d'erreur qui vient du fait que les textes anciens, en particulier dans l'Ancien Testament, n'avaient pas de ponctuation. Alors nous, ça nous paraît surprenant, hein, on ponctue tout, mais dans ces anciens manuscrits, il n'y a pas de ponctuation. Et donc la phrase « Et si on mangeait les enfants ?» Ce n'est pas la même chose si on dit « Et si on mangeait les enfants ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, ce n'est pas tout à fait pareil. Une petite virgule, ça change beaucoup de choses. Et donc, quand il n'y a pas de ponctuation dans le texte, eh ben, on arrive à des choses qui peuvent varier d'un manuscrit à l'autre. Il faut savoir, par exemple, que le texte hébreu de l'Ancien Testament n'a été ponctué que vers le 5e, 6e, 7e siècle après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Jusque-là, c'était de la transmission orale à partir de textes où il n'y avait que des consonnes. Alors ensuite, ça serait trop long de passer tout en revue, mais voilà le genre d'erreur qu'on trouve dans ces manuscrits. Des lettres sont oubliées, on oublie parfois un mot, des mots, voire une ligne entière. On ajoute ou on échange des mots, on duplique des lignes, on confond des lettres, on inverse des lettres. Bon, je vous ai mis un exemple. On confond des sons, impairs. Voilà. Tout ça fait que nous avons une ribambelle, une multitude de petites fautes comme ça, de petites erreurs, mais qui ne changent absolument pas le sens du texte en réalité. Et la critique textuelle a montré que la très très grande majorité des erreurs ou des altérations qu'on trouve dans les manuscrits sont de cet ordre-là. J'ai pris un exemple au début de la lettre à Philémon pour vous montrer aussi le genre de choses qu'on va trouver. Le texte qui est estimé le plus probable à Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Et puis ensuite, vous avez différents manuscrits avec des variantes. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre prisonnier de Jésus-Christ. Paul, esclave de Jésus-Christ. Voilà les quatre variantes qui existent du début, début du premier verset de l'épître à Philémon. On comprend facilement comment le scribe a pu... avec un peu d'inattention, Paul, apôtre, alors que c'est prisonnier, parce que l'apôtre Paul, bien évidemment, c'est ce qui vient à l'esprit en premier. On est sur des fautes d'inattention, des fautes de fatigue, peut-être. Et puis surtout, on se rend compte que finalement, ces fautes-là ne changent rien au message, au sens du texte. Et je le redis, la très grande majorité des fautes sont de cet ordre-là. La critique textuelle nous apprend aussi que nous possédons un très très grand nombre de manuscrits, en réalité, et de parchemins, qui vont permettre aux chercheurs, et qui ont permis aux chercheurs, de reconstituer un texte qui est très proche, à 99, les chiffres qui sont avancés, c'est quasiment du 100%. On est à peu près, presque à 100% sûr aujourd'hui, que les mots que nous avons sont les mots qui ont été écrits. Par exemple, pour le Nouveau Testament, pour vous donner un ordre de grandeur, on a 5300 manuscrits, certains entiers, d'autres partiels, parfois ce sont que des fragments. Donc ça, c'est 5300 manuscrits en grec. On a 9000 manuscrits en latin, en syriaque ou en copte. C'est énorme. C'est énorme dans le monde des textes antiques. Et ça fait que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, sont de loin et de très loin les textes anciens les mieux attestés au monde. Et pour vous donner une comparaison, si vous prenez la Guerre des Gaules, qui a été écrit par Jules César à la même époque, on estime que ça a été écrit entre 58 et 50 avant Jésus-Christ, on ne possède qu'une dizaine de manuscrits, et les plus anciens de ces copies-là sont des copies du 15e siècle après Jésus-Christ. Donc ça donne un ordre de comparaison avec la foison de manuscrits que nous avons pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors pour info, comme ça vous serez bon aux triviales poursuites peut-être, je vous ai mis le fragment le plus ancien qui a été découvert à ce jour d'un texte du Nouveau Testament. C'est le papyrus 52, P52, c'est l'évangile de Jean, chapitre 18, au recto, c'est versets 31 et 33, au verso, c'est les versets 37 et 38. En haut, vous avez le texte grec, avec en rouge la partie qui est sur le fragment, et puis en bas, vous avez les mots en français qui correspondent. Voilà le fragment le plus ancien, qui a été daté de l'an 130 après Jésus-Christ, alors que la rédaction de l'évangile de Jean est située à peu près 30, 40 ou 50 ans plus tôt. Donc on est très très proche avec ce fragment du texte original. Pendant très longtemps, le manuscrit complet le plus ancien de l'Ancien Testament était le Codex Leningrad, qui est donc à Leningrad, et qui a été daté de l'an 1008, précisément de l'an 1008. Mais quand on a découvert les manuscrits de Qumran, les fameux manuscrits de Qumran en 1947, dans des grottes près de la mer Morte, on a trouvé à ce moment-là à peu près 600 manuscrits, beaucoup plus anciens, pas toujours en très bon état, parfois c'était que des fragments, mais il y avait quand même de très belles pièces. Et les datations qui ont été faites de ces manuscrits les ont situées dans une période allant de l'an 300 avant Jésus-Christ à l'an 70 après Jésus-Christ. On estime qu'ils ont été cachés là juste avant la destruction de Jérusalem, en l'an 70. Et donc ce que ça veut dire, c'est que ce qui a été trouvé dans ces grottes à Qumran est au moins de 1000 ans plus vieux que ce que nous avions jusque-là. Je vous mets le rouleau d'Ésaïe, c'est un rouleau complet, il fait 7,34 m de long, il est en parfait état, et ce que l'on constate avec tous ces textes de Qumran, il y a quelques exceptions quand même, mais c'est qu'en réalité, alors que les autres textes qu'on avait étaient de 1000 ans plus vieux, mais c'est qu'il n'y a presque pas de différence. Et là encore, ça vient redire avec force que le texte a été copié avec une très grande minutie, avec un très grand soin, et que le texte que nous avons aujourd'hui correspond très très vraisemblablement au texte écrit par les auteurs. Donc les découvertes faites à Qumran ont confirmé ce que nous savions déjà, d'une certaine manière, que la Bible a été copiée et transmise avec une extrême précaution et avec beaucoup de fidélité. Et donc, nous pouvons dire, pas comme ça juste parce que ça nous arrange, mais sur tous ces éléments-là, que le texte que nous avons est extrêmement fiable de ce point de vue-là. Ce qui veut dire que finalement, ce n'est pas très grave que nous n'ayons pas des originaux, que nous n'ayons pas les autographes, les textes écrits de la main des auteurs, parce qu'en réalité, les copies que nous avons sont très très proches de ces premiers textes. Alors, la Bible est-elle fiable du point de vue des manuscrits qui sont utilisés pour reconstituer le texte que nous avons, qui est ensuite traduit par exemple en français, et avec ce travail de la critique textuelle, de ce point de vue-là, nous pouvons dire oui, le texte que nous avons est extrêmement fiable. C'était le point le plus long. Je vais avancer un peu plus vite. La deuxième clé d'entrée, c'est l'archéologie. Là, il y aurait bien évidemment beaucoup, beaucoup à dire. Et j'aimerais souligner que l'archéologie vient, elle aussi, nous montrer la grande fiabilité du texte biblique. L'archéologie chrétienne, ou biblique, on va dire plutôt, a commencé au début du 19e siècle, a vraiment pris son essor vers la fin du 19e siècle, et s'est alors considérablement développé à partir de la deuxième moitié du 20e siècle. L'enjeu derrière l'archéologie biblique est assez simple, et on peut le résumer ainsi. Si la Bible est fiable, alors les fouilles que nous allons faire, les fouilles archéologiques, vont mettre à jour des indices qui vont confirmer ce que dit le texte biblique. On est d'accord, hein ? Si c'est fiable, ce qu'on va trouver va confirmer ce qui est écrit. Par contre, si la Bible n'est pas fiable, alors quand on va faire des fouilles, ce qu'on va trouver va montrer que ce qui est écrit dans la Bible n'est pas juste. L'enjeu est assez simple. Et que nous apprend l'archéologie biblique ? On va voir qu'en réalité, elle nous montre que là encore, tout ce qui est écrit dans la Bible est écrit avec une extrême précision. On note premièrement que certains affirment qu'il est absurde de prendre le texte biblique pour un document historique. C'est une position qu'on entend beaucoup aujourd'hui. On l'a déjà dit avec certaines émissions télé, avec des ouvrages grand public qui vont dans ce sens. Et pendant très longtemps, avant qu'on commence les fouilles archéologiques, il n'y avait pas d'éléments objectifs pour prouver le contraire. Ceux qui disaient « c'est pas historique », eh ben voilà, c'était leur avis, mais on ne pouvait rien leur opposer, vraiment. Si ce n'est une position de foi, mais qu'ils ne recevaient pas. Par contre, les découvertes archéologiques qui ont été faites, en particulier depuis la moitié du XXe siècle, ont complètement changé la donne. Et les éléments qui sont trouvés viennent confirmer les uns après les autres l'exactitude précise et historique du contenu de la Bible. Ainsi, on a déterré des sites qui sont mentionnés dans la Bible, on a fait sortir de terre des villes que beaucoup disaient irréelles, qui n'existaient pas. L'existence de rois, de prophètes, de chefs militaires que l'on rangeait, qui étaient rangés par certains au rang des mythologies, ont été découverts, par exemple dans les rouleaux de la Mer Morte ou alors dans les tablettes d'Ebla, dont je dirai un mot dans un instant. Une dizaine de rois d'Israël, de Juda, sont cités dans des documents extérieurs, mais contemporains de l'époque. Des événements comme la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar en 586, le siège de Jérusalem par Salmanazar en 701 avant Jésus-Christ, la prise de Lachis la même année, sont rapportés dans les chroniques babyloniennes et assyriennes. La révolte du roi de Moab, Mécha, au 9e siècle, qui est mentionné dans le récit biblique, 2 Rois 3, verset 5, est célébré sur une stèle qui se trouve au Louvre, la stèle de Mécha. C'est magnifique, si vous avez l'occasion de la voir, c'est très très beau. Et le nom de David, même le nom de David, a été retrouvé, gravé sur une stèle araméenne de la même époque, au 9e siècle. C'est la mort d'un roi de la dynastie de David, qui est désigné dans le document comme la maison de David qui a donné lieu à cette mention. Je reviens rapidement sur les tablettes d'Ebla. Ebla, c'est un site en Syrie, en actuelle Syrie. Et en 1975, on a trouvé à cet endroit-là 18 000 tablettes. Et un peu plus loin, dans un autre site qui s'appelle Marie, on en a trouvé 22 000. Donc c'était des découvertes incroyables. Et ce sont les tablettes qui correspondent aux archives de l'ancien royaume d'Ebla. Elles ont été datées à peu près de l'an 2250 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire bien avant la période d'Abraham. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que pendant longtemps, beaucoup ont affirmé que Moïse ne pouvait pas avoir écrit le Pentateuque, les premiers livres de la Bible, parce que l'écriture n'existait pas ou n'était pas à sa disposition à cette époque-là. Ces tablettes ont confirmé que l'écriture existait bel et bien avant, et aujourd'hui on sait que ça remonte encore plus loin, et c'est en partie, alors beaucoup d'informations ont été retirées de ces tablettes. On pourrait continuer comme ça pendant des heures, c'est passionnant, en tout cas moi ça me passionne, et en fait, on se rend compte qu'on a fait des milliers et des milliers de découvertes archéologiques qui confirment l'exactitude, qui confirment les aspects historiques, culturels de la Bible, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Donc je dis qu'il est indéniable aujourd'hui que le récit biblique est bien un récit de son temps, et digne de confiance. Je vous avais envoyé dans un mail il y a quelque temps la référence de ce site chrétien archeos.tv qui met à disposition 13 courtes vidéos sur l'archéologie biblique. C'est vraiment très intéressant, ça se regarde très facilement, c'est très bien fait. Et si vous voulez poursuivre cette réflexion, je vous invite à le consulter. Un dernier élément pour contrebalancer, parce que tout n'est pas si clair que ça, et donc je veux quand même laisser un tableau un peu moins caricatural. Et je cite Émile Nicole. Émile Nicole, c'est un théologien, c'est un docteur en théologie qui a pendant longtemps enseigné l'Ancien Testament à la Faculté libre de théologie évangélique à Vaux-sur-Seine. Et voilà ce qu'il écrit. Il dit les grands événements fondateurs du peuple, la sortie d'Égypte, la traversée du désert, la conquête de Canaan, ne sont pas, à l'heure actuelle, recoupés par des témoignages extérieurs et plus explicites. Donc il y a encore des choses à découvrir, il y a sans doute des choses qu'on découvrira jamais, parce que le temps a fait son œuvre. Il en va de même pour la présence des patriarches en Canaan, ce qui est peu surprenant, les nomades ne laissant guère de traces. Notons que cette absence de certaines confirmations laisse le champ ouvert à divers positionnements qui vont de l'attitude critique hostile, qui dit « ce qui n'est pas confirmé est réputé faux, la Bible n'est pas fiable », à l'attitude croyante qui dit « même ce qui n'est pas confirmé aujourd'hui est digne d'être cru », en passant par l'attitude de prudence, ce qui n'est pas confirmé ne doit pas être considéré comme faux pour autant. La Bible est-elle fiable du point de vue de l'archéologie? Je dirais oui. La troisième clé, c'est la grande cohérence de l'ensemble du texte biblique. La grande cohérence du début à la fin de ce texte. Et qui nous montre que ce texte est en réalité beaucoup plus qu'un simple texte. C'est un argument qui prend un poids particulier quand on se rappelle que le texte a été écrit sur une période de 1500 ans, ce qui est quand même pas rien. Et en fait, en lisant la Bible, on constate assez rapidement que ces auteurs étaient unis par une même ou une étonnante identité de pensée. Et l'étudiant de la Bible arrive assez vite à cette conclusion que les auteurs différents de l'Ancien et du Nouveau Testament racontent tous la même histoire. Michael Green et Gordon Karkner, dans leur petit livre « 10 préjugés contre le christianisme », disent ceci. Du début à la fin, on trouve la même conception de Dieu. Il est à la fois créateur, sauveur et juge, sainteté et amour. La description de la nature humaine est la même. Elle peut atteindre les plus hauts sommets de la bonté et les plus profonds abîmes de la méchanceté. Créé pour vivre avec Dieu, l'homme s'est révolté contre lui et son plus grand besoin est sa réconciliation avec Dieu et son prochain. On y découvre la même espérance. À la fin de l'histoire, le dessein de Dieu s'accomplira sur la terre comme au ciel. Oui, la Bible est cohérente du début à la fin. Bien qu'elle ait été écrite sur une période d'un millénaire et demi, elle fait montre d'une remarquable unité et d'une étonnante continuité. Et je trouve personnellement que humainement, c'est inexplicable. Et on pourrait presque penser qu'un seul auteur est derrière ces 66 livres. Vous me voyez venir, ce qui n'est pas entièrement faux, puisque nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu et que derrière les 40 auteurs, il y a Dieu. Et c'est comme ça que des centaines de thèmes sont abordés dans la Bible sans jamais se contredire et sans l'intervention de Dieu dans la rédaction de ces textes. Il serait difficile de comprendre comment des personnes ayant vécu à des époques si différentes, provenant de milieux si variés, puissent exprimer des idées si convergentes sur un si grand nombre de sujets. Et c'est en particulier vrai pour l'histoire du salut qui traverse la Bible comme un fil rouge. Alors la Bible est-elle fiable du point de vue de la cohérence? Nous répondons, je réponds oui. Voilà, c'est le dernier point, les prophéties. C'est la quatrième et la dernière clé d'entrée que j'utilise pour souligner la grande fiabilité du texte biblique. Les prophéties. Et de tous les livres sur terre qui se disent divins, il n'y a pas que la Bible qui a cette prétention, de tous les livres qui se disent divins, la Bible est la seule, je dis bien la seule, qui contient des centaines de prophéties qui se sont littéralement accompli. Des centaines. Et les prophéties de la Bible, ce n'est pas l'horoscope qu'on peut lire dans le journal. Aujourd'hui, vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir un rôle important dans votre vie. Hein. On n'est pas sur ce genre de prédiction-là. Ce sont des prédictions précises qui se réalisent tout aussi précisément. Par exemple, je vous donne un exemple, je vous en donnerai encore d'autres après, mais un peu plus détaillé. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, a annoncé la destruction d'une ville, la ville de Tyr. On connaît Tyr et Sidon. Ville de Tyr, en annonçant qu'elle serait non seulement vaincue, mais entièrement rasée. Entièrement rasée. Nebuchadnezzar est passé par là, a détruit la ville partiellement. Quelques siècles plus tard, Alexandre le Grand va finir le travail en prenant toutes les pierres de la ville pour les utiliser ailleurs. Et on lit dans Ézéchiel 16, verset 14, en parlant de Tyr, « Je ferai de toi un rocher nu. Tu seras un lieu où on étendra les filets. » Et quand les Arabes ont pris ce qu'il restait en 1291 après Jésus-Christ, le lieu est devenu un village de pêcheurs. Alors, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. On pourrait citer Amos qui a annoncé la chute d'Israël, Jérémie qui a annoncé la prise de Jérusalem, Ésaïe qui a annoncé le retour de l'exil, Jésus qui a annoncé la destruction de Jérusalem. Prenons la naissance de Jésus, la venue de Jésus, annoncée avec précision dans l'Ancien Testament. Le lieu même à Bethléem, Michée 5, verset 2, le fait qu'il rentrerait dans Jérusalem assis sur un ânon, Zacharie 9, verset 9, il serait rejeté et tué, Ésaïe 53, ses vêtements seraient tirés au sort, etc. Et on se rend compte, et il faut le dire, que toutes ces prédictions ont été faites des centaines d'années avant qu'elles ne se réalisent, ce qui rend impossible l'idée qu'elles auraient été écrites après coup. Donc la Bible est-elle fiable? Du point de vue des prophéties, et là il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, la réponse est oui. Voilà, il est temps de conclure. La Bible est-elle fiable? Et je viens de vous proposer quelques raisons, en plus de la foi, de penser, des raisons objectives de le penser. La Bible est en réalité un livre extraordinaire, et c'est plus qu'un livre. Pour nous qui croyons, c'est la parole que Dieu nous adresse. Une parole qu'il a inspirée à ses différents auteurs humains, une parole qu'il a préservée au fil des siècles par une transmission fidèle, qu'il a préservée au fil des siècles aussi de toutes ces attaques incessantes pour détruire la Bible. On peut souligner ici que la Bible est le seul livre qui a été combattu de cette manière-là. Aucun autre livre n'a été combattu avec autant d'ardeur. Et on peut se poser la question, pourquoi interdire la Bible si ce n'est qu'un livre parmi d'autres? Bien sûr, tout ce que j'ai dit ce matin n'engage que moi. Et c'est possible que vous ne soyez pas tout à fait d'accord avec certaines choses que j'ai avancées. C'est bien évidemment votre droit. Mais la question qui se pose ici est vraiment celle-ci. Avez-vous déjà lu la Bible? Beaucoup l'ont fait. Avez-vous déjà lu la Bible? Êtes-vous arrivé sur cette question à vos propres conclusions? Ou bien en êtes-vous encore à penser ce que d'autres disent sur le sujet, sans avoir été vérifié par vous-même? Et donc, à la suite du message de ce matin, la suite logique, me semble-t-il, serait, si vous n'avez jamais lu la Bible, serait de vous faire une idée par vous-même et de prendre la décision de la lire. De la lire pour vous faire votre propre opinion. Et je suis prêt à prendre le pari, je ne parie pas en règle générale, mais là, je suis prêt à prendre le pari que si vous commencez à lire la Bible sincèrement, en mettant de côté vos a priori, je suis prêt à prendre le pari que vous changerez d'avis. Et je suis prêt à prendre le pari que vous serez convaincu, comme moi, de la fiabilité de ce que vous allez lire, du caractère unique de ce que vous allez lire. Alors il est vrai, il faut le dire, que quand nous lisons la Bible, nous ne comprenons pas forcément tout. Et si vous commencez à lire la Bible, il est possible qu'il y ait des choses que vous ne comprenez pas. Est-ce qu'il faut arrêter de lire la Bible pour autant ? En fait, ce que nous ne comprenons pas ne devrait pas nous empêcher de croire ce que nous comprenons. Parce que si ce n'est pas le cas, alors il y a beaucoup de choses qu'il faudrait changer. Il faudrait par exemple arrêter d'enseigner les mathématiques aux enfants en primaire, les additions et les soustractions, parce qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre les équations à plusieurs inconnues ou les différentiels ou autre chose. Il y a des choses qu'on comprend au fur et à mesure, il y a aussi parfois des choses qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas grave, c'est vrai dans tous les domaines. Ce que nous ne comprenons pas ne devrait pas nous empêcher de croire ce que nous comprenons. Alors si vous décidez de commencer à lire la Bible ce matin, ou alors de recommencer à lire la Bible, c'est possible aussi, je vous invite à le faire en commençant par les évangiles, tout simplement, par la vie de Jésus, parce que c'est ça le cœur du message de la Bible. Commencer par l'Ancien Testament, ça sera sans doute fastidieux, ça peut venir par la suite, mais commencer par l'évangile, c'est ça le plus important. C'est le cœur du message biblique. Alors, chers amis, la Bible est un livre fiable, c'est ma conviction, pour toutes les raisons que j'ai évoqué rapidement et un peu longuement quand même aussi ce matin. Mais c'est surtout, elle est fiable surtout parce que c'est le moyen que Dieu a choisi pour se révéler à nous et pour nous révéler son amour manifesté en Jésus-Christ. Alors que le Seigneur nous aide chacun à découvrir, à redécouvrir, à continuer de découvrir cette belle parole, ce beau texte qui contient les paroles de la vie éternelle. Amen.